Excellent réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La moitié des écoles de Seine-Saint-Denis seront fermées aujourd'hui. Journée de grève, journée de deuil, surtout 2 semaines après le suicide d'une directrice d'école à Pantin. La mobilisation est également nationale, tant les problématiques sont communes. Nous tenterons de comprendre le malaise des directeurs d'établissement.
Et puis nous dresserons la liste des produits européens surtaxés par les États-Unis. L'Organisation mondiale du commerce a donné son accord hier.
Boris Johnson abat sa dernière carte à 28 jours d'un Brexit programmé. Le Premier ministre britannique propose un entre-deux pour conserver l'Irlande du Nord tout en préservant son commerce extérieur. Réaction à suivre.
Et puis nous vous expliquerons pourquoi Placido Domingo démissionne de l'Opéra de Los Angeles. Il est accusé de harcèlement sexuel.
Quelle stratégie pour La République En Marche aux élections municipales? Voici la question posée par Frédéric Saïs dans son billet politique. Ces petits riens qui occupent à 200% notre journée. Voilà ce qu'a écrit avec précision et émotion la directrice d'école Christine Renon dans une lettre. Elle s'est ensuite donné la mort le 21 septembre dernier dans son établissement à Pantin en Seine-Saint-Denis. Ce jeudi, jour de ses obsèques, les appels à une grève hommage sont nombreux dans les écoles de France. Et les témoignages de ces petits riens qui font toute la fatigue, ces témoignages foisonnent chez ceux qui sont encore là. Marie, par exemple, directrice d'une école primaire près de Toulouse.
C'est que de la gestion de crise, il faut apaiser, dialoguer, mais en plus de ça, il y a la charge administrative, il y a la classe à prendre, il y a l'école à faire tourner, et on est seul, on est très seul. Moi, je suis épuisée, je suis dans un état de stress énorme. Hier encore, il y a eu une agression au portail, j'ai dû m'interposer, j'en tremble encore. On a la boule au ventre quand on vient de travailler, et on est seul. Moi, je n'ai ni secrétaire, ni adjoint, ni CPE. Je dois tout gérer, à la fois le standard, l'accueil, les conflits, l'administratif et la vie de l'école.
Alors pour dénoncer cette solitude, pour se souvenir de Christine Renon, 60% des écoles de Seine-Saint-Denis seront fermées aujourd'hui selon le SNUIPP. Le syndicat en profite pour mettre en lumière les difficultés de la profession. Elles sont nombreuses à Kim Kasmi.
Problèmes de reconnaissance de leur travail, manque de dialogue avec leur hiérarchie, multiplication des réformes. Le malaise est grand chez les directeurs d'école qui voient leurs moyens baisser ces dernières années, notamment avec la fin des contrats aidés. Marie-Hélène Clar, secrétaire départementale du SNUPP 93 et elle-même directrice d'école.
On est sur une surcharge administrative de plus en plus importante. Il faut quand même savoir qu'il y a 2 ans, ce gouvernement, quand il est arrivé, il a supprimé tous les postes d'aide administrative dans les écoles. Voilà, où on avait du personnel qui nous allégeait sur un certain nombre de tâches qui étaient fort utiles au quotidien dans les écoles et qui permettaient justement aux directions d'école de se dégager du temps pour être plus sur des questions d'ordre pédagogique, plus au plus près des élèves.
Résultat, seulement 20% des directeurs d'école sont totalement déchargés de classe. Les autres doivent faire au moins 2 jours de cours par semaine. Cécile Rilac, députée La République En Marche, qui travaille sur une proposition de loi pour mieux rémunérer les chefs d'établissement du primaire.
Ce que je préconise, c'est qu'ils deviennent des directeurs à temps plein. C'est-à-dire qu'on reconnaisse véritablement le métier. Que diriger une école, c'est un métier. Ce n'est plus simplement une fonction que l'on doit attribuer à un enseignant parmi les membres d'une équipe pédagogique. Donc il faut avoir à l'esprit qu'un directeur ou une directrice qui aujourd'hui exerce dans une école de 3 classes n'a pas du tout la même charge de travail qu'un directeur qui exerce dans une école où il y a 14 voire 20 classes, comme c'est le cas dans ma circonscription.
Jean-Michel Blanquer a mis en place des concertations en avril sur la question du statut des directeurs d'école. Une concertation toujours en cours qui reste pour l'instant sans réponse.
Le malaise est le même et les conséquences sont tout autant dramatiques. Chez les policiers aussi, les témoignages de surmenage et de manque de considération ont été portés en nombre dans la rue. Ils étaient hier près de 27 000 dans Paris, soit 1/6 de la profession mobilisée. Une mobilisation inédite depuis 2001. L'entreprise Lubrizol devra assumer ses responsabilités et notamment faire une série d'opérations de remise en état sur son site de Rouen. Le préfet de Seine-Maritime s'est voulu clair hier, 1 semaine après l'incendie de l'usine classée Seveso. Il évoque l'évacuation d'une 100aine de fûts qui permettra d'éliminer une première source d'odeur et d'émanation potentielle. Avant-hier, la préfecture avait publié la liste des plus de 5000 tonnes de produits chimiques qui ont brûlé dans l'incendie. Pas de quoi rassurer les habitants et les élus qui ont demandé des explications hier à la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne. C'était à l'Assemblée nationale en commission du développement durable, Stéphane Robert.
À défaut d'avoir réussi à rassurer la population, Elisabeth Borne s'est efforcée d'essayer de convaincre les députés de sa bonne foi et de la probité du gouvernement. Les services de l'État, a-t-elle assuré, ont respecté autant que faire se peut les procédures de mise en sécurité et de gestion des risques qu'ils devaient à la population.
L'incendie a été contenu, il n'y a pas eu de suraccident, tout le monde est mobilisé pour retirer les polluants qui sont présents sur le site. Il y a eu un nombre très important de prélèvements dans l'air, dans l'eau, sur les sols, sur les végétaux, qui sont systématiquement analysés. Donc personne n'a dit que les produits n'étaient pas dangereux. Ce que nous disons simplement, c'est que toutes les mesures réalisées aujourd'hui sur la base des produits que nous avons recherchés n'ont pas fait apparaître de polluants anormaux.
Ensuite, la ministre a reconnu qu'il y a peut-être eu effectivement un problème de prise en compte des inquiétudes dans la manière dont a été délivrée l'information à la population.
Peut-être que l'information n'a pas été la bonne. Je suis parfaitement consciente que ça crée un doute sur la parole publique. En tout cas, je peux vous assurer que le gouvernement en est parfaitement conscient, et y compris de ce paradoxe qu'il peut y avoir à dire à des gens qui respirent une odeur épouvantable qu'il n'y a pas de pollution dans l'air.
Après cette audition, les députés doivent décider de la manière dont ils demanderont des comptes au gouvernement dans la gestion de cette crise. À ce stade, on s'orienterait vers la création d'une mission d'information parlementaire à l'Assemblée, tandis que le Sénat aurait, semble-t-il, l'intention de créer une commission d'enquête avec des pouvoirs d'investigation beaucoup plus étendus, comme ce qui s'était passé l'an dernier avec l'affaire Benalla.
Lui aussi va passer une sorte de grand oral, être écouté et probablement jugé. Emmanuel Macron se rend aujourd'hui à Rodez pour lancer la concertation sur la réforme des retraites. Un grand débat annulé la semaine dernière après la mort de Jacques Chirac et qui est donc reporté à ce jeudi.
8h07 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Les produits européens seront bientôt surtaxés par les États-Unis.
Donald Trump l'annonçait en effet hier soir après le feu vert de l'Organisation mondiale du commerce. L'OMC a tranché en faveur de Washington dans un litige concernant Boeing et Airbus qui auraient reçu des subventions indues. Les États-Unis peuvent donc appliquer des droits de douane sur 7,5 milliards de dollars d'importations européennes, des importations notamment françaises. Pierre-Yves Dugain.
La France est touchée à deux niveaux par les sanctions annoncées hier par Washington. D'abord au niveau de ses exportations aéronautiques. Les Airbus, qui sont en partie assemblés en France, seront surtaxés à hauteur de 10% dès le 18 octobre. La bonne nouvelle, les pièces détachées d'Airbus, notamment celles importées par Airbus pour être assemblées dans son usine d'A320 de l'Alabama, sont épargnées. L'autre mauvaise nouvelle pour la France concerne aussi l'Espagne. Les vins français et espagnols seront surtaxés à hauteur de 25%. Pourtant, les vins italiens échappent à cette sanction. Les fromages français et italiens sont eux bel et bien visés par les mesures de rétorsion américaines. Cela aurait pu être pire. Les champagnes et les cognacs français sont pour le moment épargnés, de même que les produits de cuir des grandes marques françaises.
Des surtaxes sur certains produits donc qui vont s'appliquer à partir de la mi-octobre. Autre dossier qui occupe et qui inquiète l'Union européenne en ce moment, il s'agit du Brexit. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a évoqué hier l'idée d'un compromis raisonnable sur la frontière irlandaise. L'Irlande du Nord resterait liée à l'Europe jusqu'en 2025, mais quitterait tout de même l'Union douanière au nom de l'unité du Royaume-Uni. Il reste encore beaucoup de travail, réagissait le négociateur de l'Union européenne sur le Brexit, Michel Barnier, alors que la sortie du Royaume-Uni est toujours prévue le 31 octobre, c'est-à-dire dans 28 jours. À la frontière avec l'Irlande du Nord, les Britanniques, eux, ne sont pas tous convaincus par cette nouvelle proposition. Emeline Vin l'a constaté dans la petite commune de Newry.
La boulangerie Shelbourne est une institution pour Newry. La proposition de double frontière a bien plu à Ivan, un habitué de la pâtisserie et partisan du livre, il y a 3 ans.
Je pense que c'est une très bonne chose. Ça va faciliter le commerce des deux côtés. C'est vrai que je n'aimerais pas qu'il y ait à nouveau des contrôles à la frontière, mais avec les nouvelles technologies, ça ne devrait pas être un problème.
Autour de lui, les regards sont désapprobateurs. Callum et Amy sont venus s'offrir un goûter en sortant du lycée.
Ça pourrait faire revenir la violence en Irlande, surtout que ça a déjà été le cas. Nos parents nous racontent des tas d'histoires sur comment c'était avant. En plus, nous, on fait partie d'un groupe, ça risque d'être compliqué d'aller faire des concerts au sud.
En fait, plus compliqué, surtout que Boris Johnson n'a pas détaillé son projet. Selon la gérante de la pâtisserie, Marie Downey, c'est parce que lui-même ne comprend pas de quoi il s'agit.
Il ne se préoccupe que des gens à Londres. Il ne s'intéresse pas aux gens d'Irlande du Nord, ni à ce qui se passe à la frontière. Nous n'en voulons pas de cette double frontière. Et des douanes. Ça ne peut pas fonctionner. Nous importons certains de nos ingrédients de Dublin, il faudrait qu'on répercute la hausse des prix. Nos clients ne vont pas apprécier.
Et la clientèle de la boulangerie Shelbourne repose en partie sur le sud.
L'euro et la livre sont actuellement équivalents en tout change. 20% de nos clients viennent du sud. On dépend des clients de la République. Ce qu'on demande à Boris Johnson, c'est de penser à nous et de nous donner un deal juste.
Mais qu'est-ce qui ferait un deal juste? La commerçante éclate de rire. C'est une excellente question d'ailleurs. Ça fait 3 ans qu'on se la pose.
C'était Emeline Vin dans le nord du Royaume-Uni pour France Culture. Un couvre-feu est imposé ce matin à Bagdad et le restera jusqu'à nouvel ordre, prévient le premier ministre irakien. Hier, des affrontements ont éclaté entre manifestants et forces de sécurité pour dénoncer le chômage, la corruption, la désaffection des services publics dans le pays. Au moins 5 personnes ont été tuées, 132 autres blessées. Les autorités ont aussi refermé la zone verte où siègent les plus hautes institutions du pays, ainsi que l'ambassade américaine. Des incidents entre manifestants et policiers, le tableau est le même à Hong Kong. Cette nuit encore, des militants pro-démocratie se sont réunis. Ils ont exprimé leur colère après qu'un policier a tiré à balles réelles sur un jeune manifestant. C'était mardi. Ces manifestants se sont donc réunis hier soir, cette nuit encore. C'était dans le même quartier, Florence de Changy.
Le rendez-vous a été donné sur le terrain de sport de Tsuen Wan, une de ces villes nouvelles des nouveaux territoires de Hong Kong. Les participants tiennent des panneaux « Ne tirez pas sur nos enfants ». L'artiste de théâtre, Banky, explique sa participation à ce rassemblement.
Hier, ici, un jeune a été touché par une balle de la police à 3 cm de son cœur, tellement près. Donc ça l'a presque tué. Et à 16h aujourd'hui, la police, pendant sa conférence de presse, a dit que ce qu'elle avait fait était correct, de tirer sur un jeune. Donc c'est pour cela que nous sommes tous ici. Et c'est ici qu'est le pouvoir.
Amanda, elle, est institutrice dans une école voisine et se sent concernée, comme tous les Hongkongais.
Je considère que ce qui s'est passé est totalement inacceptable. La police et le gouvernement doivent assumer la responsabilité de cet accident qui viole toutes les lois et toutes les règles de Hong Kong.
D'autres rassemblements spontanés ont eu lieu ailleurs à Hong Kong, mais comme à Tsuen Wan, il y a ensuite eu des confrontations avec la police. Les Hongkongais sont de plus en plus nombreux à réclamer une dissolution totale de leurs forces de police dans laquelle ils n'ont plus aucune confiance.
C'était Florence de Changy pour France Culture. L'équipementier Nike est secoué par un scandale de dopage. Son entraîneur maison, Alberto Salazar, a été suspendu 4 ans en début de semaine. L'agence américaine antidopage évoque même ce matin des athlètes considérés par l'entraîneur comme des cobayes qui ne savaient pas ce qu'ils prenaient. Le patron de la marque Nike, dans un courrier aux salariés, précise que ce n'était pas de son initiative. Au chapitre des scandales encore, en voilà un qui a fait tomber le directeur de l'opéra de Los Angeles. Placido Domingo quitte son poste face à la pression. Le célèbre ténor est accusé de harcèlement sexuel, Loïc Piala.
La démission de Placido Domingo s'inscrit dans une suite logique. La semaine dernière, il s'est retiré du Macbeth de Verdi au Metropolitan de New York. Dans la foulée, les opéras de Dallas, Philadelphie et San Francisco ont annulé ses performances programmées dans les prochains mois. Je continuerai à me battre pour défendre ma réputation, mais en attendant, j'ai décidé qu'il était dans le meilleur intérêt de l'opéra de Los Angeles de démissionner, explique le cœur lourd, le directeur de l'opéra de la Cité des Anges, un poste qu'il occupait avec succès depuis 2003. Le président de l'opéra a salué son travail tout en rappelant que l'enquête ouverte sur son comportement inapproprié continuerait. Baisers forcés, mains mal placées, avances insistantes. D'après l'agence AP, 20 femmes accusent la légende d'harcèlement sexuel depuis les années 80 jusqu'à la saison 2016-2017. Si toutes ces performances américaines ont été annulées, Placido Domingo est toujours attendu en Europe. Rien qu'en octobre, il doit se produire à Zurich, Moscou et Vienne.
Nous revenons en France pour quelques mots de la météo de ce jeudi qui débute. Et la pluie fera son retour par la pointe bretonne, mais pas avant la fin d'après-midi. D'ici là, les éclaircies seront belles sur tout le territoire. Ce matin, il fait frais, 10 degrés à Besançon, 12 à Lille et Paris, 14 degrés à Brest et Lyon et 19 degrés dans la matinée à Nice.
Merci Clara Lecoq-Réal.